Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Côte Nord, la seule émission qui fait parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens et le tout en même temps. Au sommaire ce soir, les Lensois sont-ils en panne? Quatrième match sans victoire pour les Sang-et-Or qui se sont inclinés 2-1 face à Lyon. La mine de Machado n'a pas suffi, un manque d'efficacité dans les deux surfaces pointé du doigt, notamment par Francaise et Brice Samba, on verra ça tout à l'heure. De son côté, Lille revient dans la course à l'Europe, une victoire 2-0 contre Strasbourg qui aurait pu être cette certes plus imposante, mais les Dogs ont surtout géré cette rencontre avec tout de même quelques frayeurs. Et puis on va déjà parler du derby, il approche à grands pas, c'est dans 3 semaines. Les dynamiques se sont-elles inversées? Cette rencontre peut-elle être un moment charnière du championnat de nos deux équipes? On en débat ce soir avec nos supporters en plateau. Bonsoir Mohamed Zeraoulia.
Bonsoir.
À tes côtés, Adrien Bonnereau, journaliste pour Horizon. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Vincent.
Et puis côté Lillois, Baptiste Cogé.
Bonsoir.
Bonsoir Baptiste et François Stock, créateur des Dogs Lunettes. Et vous verrez que maintenant il sait ce que c'est des tops et flops. On verra ça dans quelques instants. On vous explique tout ça. Bonsoir François.
Bonsoir Vincent.
Et si vous voulez rejoindre l'équipe, le hashtag CopNord sur les réseaux sociaux pour aussi réagir à l'émission en direct. Supporter Lillois ou supporter Lensois, on attend vos messages. Et on commence donc cette émission en parlant de Lens, la défaite face à Lyon, résumée par Nicolas Flo.
Rien ne va plus au RC Lens. Les Sang et Or se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Lyon hier soir. Alexandre Lacazette ouvrait le score, lancé dans la surface par Ryan Cherki. La réaction lensoise est intervenue juste avant la mi-temps, avec cette frappe en pleine lucarne signée Daver Machado. Mais c'est Ryan Cherki qui clora la marque à l'heure de jeu. Quatrième match consécutif sans victoire pour les Lensois, qui descendent à la quatrième place.
Et juste avant d'analyser cette rencontre, juste un coup d'œil sur les statistiques du match. Des Lensois qui ont eu plus le ballon que leurs adversaires du soir, près de 60% de possession. Ils sont plus tirés, 14 frappes contre 11, mais moins cadrés. À noter aussi beaucoup plus de passes, près de 600 contre 430 et 26 centres Lensois, dont seuls 5 qui ont trouvé preneur. Alors, les tops, les flops de cette rencontre, déjà pour toi par exemple Mohamed, qui a été le top côté Lensois?
Moi j'ai beaucoup apprécié Thomasson. Et aussi Brice Samba qui a sauvé l'équipe à plusieurs reprises.
Adrien ?
Non, j'aurais dit pareil, moi c'est Brice Samba. Il a fait des sorties intelligentes et des parades qui ont permis à Lens d'espérer jusqu'au bout malgré la défaite.
Notamment face à un Moussa Dembélé qui n'était pas forcément en réussite hier, mais c'est surtout pour vous Brice Samba qui fait les sorties.
Oui, ouais, c'est parce qu'il a maintenu à flot une équipe qui a eu du mal malgré sa domination dans le jeu. On l'a vu avec plus de frappes, avec une meilleure possession de balles, mais moins de concrétisation, et Samba a su préserver cette équipe pour que Lens puisse aller chercher quelque chose. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais il est solide comme toujours, hein. C'est pas la première fois qu'il est top d'une rencontre, donc Samba.
Baptiste ?
Moi, c'est Kevin Danso. Très bon match, même s'il y a eu 2 buts encaissés, il a fait un très bon match.
Solide, et François ?
Moi, j'allais dire Brice Samba également, même si c'est jamais bon signe pour une équipe de que ce soit son joueur qui soit le meilleur joueur du match.
Le gardien.
Mais c'est vrai qu'il a été effectivement, il a été efficace. Il a face à des attaquants lyonnais qui sont plutôt en verve en ce moment. Je pense à Lacazette ou Cherki, et malgré ça, il a réussi à sortir quelques ballons.
On va donc maintenant passer au flop. On reprend le même circuit, Mohamed.
Moi, j'irais Fofana.
Qui fait pour toi le moins bon match, ou c'est qu'il n'est pas au niveau des attentes?
Pour moi, il n'est pas au niveau des attentes qu'on pourrait avoir de lui. Là, l'équipe est un peu en difficulté. On attend que le capitaine et puis Fofana répondent présent. Je l'ai trouvé, moi, à mon niveau, je l'ai trouvé un peu brouillon. Alors, il est toujours, il fait énormément d'efforts, il est tout le temps en mouvement, mais je trouve qu'il a plus l'impact qu'il pouvait avoir avant.
Et s'il arrive à marquer, par exemple, il a 2 très grosses occasions, 2 très grosses frappes, un super extérieur du pied, est-ce que ça aurait changé pour toi quelque chose s'il avait juste marqué un but?
Ça aurait changé le score déjà. Mais
est-ce que ça aurait changé son match? Est-ce que c'est juste la réussite des derniers instants qui aurait compensé ses efforts?
Non, pas pour moi.
Mais après, c'est ce qu'on voit sur plusieurs matchs. Le problème de Fofana, c'est que certes, il a une baisse de régime, mais en fait on voit il se donne à fond, mais souvent en fin de match, en fait c'est ce qu'on remarque, c'est que il réagit quand Lens est dans le dur, et en fait il est un peu trop tard là. En l'occurrence, Lopez sort une grosse frappe qui met, c'est clair que voilà, ça change complètement, et on repense au fait qu'il ait sauvé Lens en fin de match des nombreuses fois. Donc s'il marque ce but égalisateur face à Lopez, forcément ça change la vision qu'on peut avoir de Fofana.
C'est ton flop, Fofana?
Non, moi c'est Openda et l'attaque en général, parce que c'est très faible depuis 4 matchs. Donc Openda, depuis son match référence face à Paris à Bollaert, on le voit plus, même si là il est rentré à la 63e minute. Donc ça lui laisse peu de temps pour faire la différence. Mais l'attaque en général est très brouillonne en ce moment, je trouve, du côté lensois. Et ça, c'est Loïs Openda, je trouve, qui incarne bien cette attaque un peu en difficulté.
On va justement revenir dans quelques instants sur ce manque de réalisme côté lensois. On termine juste nos flops, Baptiste, pour toi.
Pour moi, Abdoul Samed, 27% de duel gagné, n'a pas vraiment été bon. Après, Fofana l'a pas aidé, hein, mais pour moi, n'a pas été très très bon.
C'était pas là aussi au niveau des prestations qu'il faisait sûrement dans ses dernières rencontres. Enfin, François.
Oui, c'est le cœur du jeu, le milieu de terrain. Et pour parodier un peu une certaine vidéo, quand on fait jouer Jean-Michel, je cours un peu moins vite et Jean-Michel, je presse un peu moins. Ben forcément, on a des difficultés pour gagner les matchs.
On a bien donc compris la dédicace faite à la vidéo faite pour parler lensois à qui parlait d'arbitrage. Parlons maintenant donc de la réussite. Justement, la réussite, elle n'est pas dans les deux surfaces. C'est notamment ce que retenait Brice Samba à la fin de cette rencontre.
Je pense que ça se joue dans les deux surfaces, tout simplement. Voilà, on était un peu moins efficace parce que quand on regarde, je pense, le match, je vais le revoir, mais je pense qu'on est l'équipe supérieure. C'est juste que voilà, Lyon a été chirurgical à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, et je pense que ça s'est joué sur ça ce soir.
Alors, comment on explique cette panne offensive, cette panne aussi défensive? Pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières rencontres?
Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis le début de saison. Hein. Lens domine toujours dans le jeu. Ça se voit, comme je le disais, sur les statistiques. Avant, on disait même que c'était un point fort du fait que les buteurs et les buts ne soient pas inscrits par une seule et même personne à Lens. Là, le problème, c'est que c'est ce qui fait défaut parce qu'on n'a pas de buteur référence. On croyait l'avoir en Openda sur ces derniers matchs. Malheureusement, il y a une petite baisse de régime. Après, je pense que c'est plus général et c'est assez paradoxal quand on sait que Lens est la meilleure défense de Ligue 1. Mais pour être sur le podium que Lens a quitté, il faut avoir une excellente défense, mais aussi une excellente attaque. Et en étant 7e attaque de Ligue 1 ex aequo, 7e d'ailleurs, c'est assez paradoxal aussi puisque c'est le classement que Lens s'enchaîne depuis deux saisons. Faut que l'attaque se réveille. Après, comment changer? Souvent, il y avait les entrées en jeu qui faisaient du bien. Là, le problème, c'est que Lens commence à perdre son banc parce que Wesley Saïd est blessé, parce qu'il y a énormément de blessés sur le banc. Donc c'est difficile. Après, faut faire avec. Hein. La saison est encore longue. La saison est longue et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a des blessés et de la fatigue. Donc maintenant, faut faire avec. Et à Francaise de trouver une solution pour pallier cette inefficacité offensive.
Mais si je te suis, c'est pas une bonne nouvelle pour vous que vous soyez encore qualifié pour la Coupe de France avec
Ça fait un enchaînement de matchs, et si on a l'Europe l'année prochaine et qu'on n'a pas d'attaquant, ce sera encore pire, je veux dire, en termes de calendrier, parce qu'il y aura quasiment deux fois plus de matchs. Après, c'est peut-être pas aussi une question de rythme. On disait, ouais, la Coupe du Monde va faire du bien, c'est souvent là où Lens a sa période creuse. Au final, elle l'a maintenant, parce qu'une saison, ça reste 38 matchs, Coupe du Monde ou non. Donc la fatigue est présente.
Moi, ça me rassure un peu quand même, parce que je me dis, là, c'est dans le creux de la vague, mais comme tu expliquais tout à l'heure avec les chiffres, les statistiques, on tient le ballon, on joue, bon, c'est stérile, certes, mais le jeu est toujours présent. On n'est pas dominé, on n'est pas acculé sur nos buts. Il y a cette question de réalisme, il faut mettre les buts, quoi. Et c'est vrai que il nous manque actuellement un attaquant qui pourrait...
Alors juste, on va revenir sur ce qui se disait sur Loïs Openda. C'était Francaise qui confiait en conférence de presse d'après-match, qui voulait donc faire rentrer Loïs Openda une trentaine de minutes. Malheureusement, quand il est rentré, il a fait partie de ceux qui ont été fautifs sur le deuxième but lyonnais. C'est lui qui perd le ballon sur un pressing de Cacré. Et donc, ce que dit Francaise, c'est que c'était pas le bon timing pour le faire rentrer. Le coach, il s'est planté, comme a dit hier Francaise. Là, effectivement, c'est quoi? C'est qu'il manque de solutions maintenant sur le banc. Comme tu dis, plusieurs blessés, il manque...
Après, Openda, c'est un changement logique aussi. Hein. On est en peine, on perd 2-1. Forcément, il faut faire rentrer des attaquants. C'est juste pas de bol qu'Openda perde un tel ballon. Après, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que les solutions commencent à se faire minces vu le nombre de blessés qu'il y a à l'infirmerie en ce moment. Quoi.
En tout cas, il y a une très bonne rentrée. Côté lensois, c'est Pereira da Costa qui, lui, pour le coup, a été assez performant.
C'est le seul qui a remporté ses duels pendant ce match, sur l'intégralité du match. C'est lui qui est le seul lensois qui a remporté ses duels. Donc, c'est tant mieux parce qu'il fait un peu des performances en dents de scie, et avoir un match comme ça pour lui, peut-être que c'est lui qui sera la potentielle solution à l'inefficacité offensive de Lens.
Et juste un mot sur quelques statistiques. On a parlé donc beaucoup du côté offensif pour les Lensois. Lens qui n'a toujours pas mené au score depuis le début de la phase retour. Donc il y a l'égalisation contre Troyes et contre Brest. Et donc les défaites contre Nice et contre Lyon. Et si on regarde maintenant de l'autre côté du terrain, et ben les Lensois ont encaissé 9 buts en 10 matchs depuis le 1er janvier, le fameux match contre Paris. Et il y a eu 10 buts encaissés entre août et décembre. Là aussi, on a l'impression, pour toi Baptiste, pour toi François, que les Lensois sont moins à l'aise défensivement?
on n'est jamais à 120% de sa forme sur toute une saison. Il y a des moments où il y a un coup de moins bien. La trêve de la Coupe du Monde a peut-être cassé un peu le rythme. Là, ils ont effectivement quelques soucis pour tout redémarrer. Ils ont des statistiques un peu à la Fonseca, hein, du beau jeu, de la possession des passes, mais pas d'efficacité tant devant que derrière. C'est un problème qu'on connaît bien à Lille. Pour l'instant, bah, il faut qu'ils arrivent à le résoudre, si possible, pas avant le derby. Mais il faut qu'ils trouvent des solutions. Et sur le fond, il ne faut pas non plus tout lâcher. Je crois qu'ils font une bonne saison. Ils sont pour l'instant quatrième, assez proche finalement du podium. Donc il faut pour eux
qu'ils
faut courber le dos et attendre que ça se passe en essayant finalement de motiver encore plus les joueurs pour reprendre ce qui manque. C'est-à-dire que ce qu'on voit moins un peu de l'extérieur, c'est ce groupe compact. Là, on voit qu'il y a des failles un peu partout. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est la gestion des remplaçants, j'en sais rien.
En tout cas, c'est pas de la fatigue, hein. C'est ce que disait Francaise à la fin de cette rencontre. Il était tôt quand vous nous annonciez jouer la première place avec Paris. Là, il s'adresse aux journalistes en disant ça. Je reste fier de mon équipe. Il nous manque certaines choses pour être très très haut. Ça, c'était pas beaucoup vu. Ça tient à pas grand chose. On est rentré dans le rang pour les premières places. On va traverser ça ensemble et on verra donc dans quelques journées. Message, donc oui, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, disait François et ce que disait Francaise manifestement. Là, pour le coup, Mohamed, tu es complètement d'accord avec ce que dit le coach.
Oui, tout à fait. Lens traverse une mauvaise période, mais des clubs qui traversent des mauvaises périodes et qui sont quatrième au classement, avec un excellent début de saison, moi, je ne suis pas inquiet. Il y a 4 matchs avec 2 points sur 12. Mais je me dis, on est dans le creux de la vague et on va remonter.
Si tu te projettes un peu, il y a Nantes qui arrive, il y a Montpellier, puis Re-Nantes en Coupe de France avant donc le derby. Là aussi, c'est des équipes qui sont en forme. Nantes qui enchaîne les victoires, Montpellier aussi avec son nouveau coach. Ça, pour le coup, c'est 3 prochains matchs. Est-ce que c'est des matchs qui peuvent être vraiment charnières et dire si Lens peut jouer le podium, l'Europe ou malheureusement lutter pour éviter de descendre au classement?
Ça va pas être le reflet de leur fin de saison non plus. Jouer Nantes, certes, ils sont en forme aussi, mais Lyon l'était aussi. Et Lens n'avait pas à rougir. C'est juste l'inefficacité offensive qui a pêché. Mais Nantes et Montpellier seront des bons tests. Par contre, ça ne reflétera en rien le fait que Lens mérite de jouer l'Europe ou non s'ils perdent ou gagnent contre Nantes ou Montpellier.
Et le derby? Est-ce qu'il va être encore au-dessus de ces matchs-là?
Avec l'étau qui se resserre entre Lens et Lille, c'est clair que l'enjeu se fait de plus en plus grand de semaine en semaine. À Lens, d'engranger un maximum de points pour avoir une sorte de matelas avant d'affronter Lille. Maintenant, c'est toujours un enjeu, un derby. Donc il n'y a pas de pression supplémentaire à avoir cette saison plus qu'une autre, quoi.
En tout cas, retrouver la confiance. Donc c'est ce qu'il faut retenir et peut-être essayer de faire côté Lensois. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub. Et on parle maintenant de la victoire du LOSC qui est en pleine bourre pour les Lillois avec cette victoire face à Strasbourg. A tout de suite. Vous êtes bien sur COP Nord, sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et on va maintenant parler du LOSC, la victoire face à Strasbourg hier. Le résumé avec Nicolas Flo.
Victoire nette et sans bavure du LOSC face à Strasbourg à Pierre Mauroy. À la 20e minute de jeu, Edon Zegrova s'écroule dans la surface, pénalty. Jonathan David ouvre le score. Le premier acte d'un match magistral pour le Canadien qui inscrira un doublé consécutif à un ballon mal repoussé du gardien strasbourgeois. Avec cette victoire, le LOSC grimpe à la 5e place, à 5 points du voisin Lensois.
Est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est que les Lillois ont eu vraiment la main mise sur le match et sur les statistiques. 67% de possession, 732 passes contre 347, 14 tirs à 5, dont 10 tirs cadrés et aucun côté strasbourgeois. Donc on voit vraiment que les Lillois ont dominé à la maison hier après-midi plutôt tranquille. François, on commence par toi pour les tops et flops. Ton top côté Lillois?
Alors le top, je crois qu'il n'y a pas hésité, hein, c'est Jonathan David, il fait un match exceptionnel, il marque 2 buts, il a aussi plusieurs occasions, le score n'est pas plus sévère parce qu'il y a en face, il y a Matsels qui fait un gros match, qui sort plusieurs ballons, et pourtant Dieu que cette équipe de Strasbourg était faible, pas de pressing, ou très peu de pressing, il y avait juste un ou deux joueurs, le milieu de terrain, comment il s'appelle, le son nom m'échappe, il y avait un ou deux joueurs dans le jeu qui avaient le niveau, mais sinon le l'équipe était complètement laissée à l'abandon, le gardien de but. Sur le deuxième but, d'ailleurs, il s'en prend à ses trois défenseurs qui sont complètement spectateurs dans la surface de réparation. Donc c'est vrai que c'est un match facile, qui a été rendu facile par l'efficacité, pour une fois, du LOSC et par la passivité des joueurs de Strasbourg.
Donc Jonathan David, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'avaient mis en top sur cette rencontre, Mohamed? David,
hein. Bah moi j'ai bien aimé Zegrova, il obtient le pénalty, il fait toujours la même chose quand il dribble, mais face à une équipe comme celle de Strasbourg, comme le disait François, qui a été très faible, ça paye. Donc à chaque fois que Zegrova fait son dribble face à une équipe pareille, ça passe et ça fait mouche, pénalty obtenu, bien dans le cœur du jeu. Donc ouais, Zegrova pour ma part.
Zegrova, forcément je me tourne vers toi Baptiste, est-ce que tu vas pouvoir nous mettre Zegrova en top?
Je pensais jamais le dire, mais ouais, je vais le mettre en top. Il a été exceptionnel et on voit que Fonseca l'a vraiment fait mûrir dans son jeu. On voit qu'il commence déjà à jouer du droit, donc ça c'est quand même impressionnant. Et ouais, il continue du gauche, même s'il frappe pas, c'est toujours voilà son crochet. Je crois qu'il a touché 11 ballons dans la surface sans même tirer une seule fois. C'est un record, c'est dommage parce que je pense qu'il peut vraiment allumer le gardien. Maintenant voilà, on va pas lui demander trop. Pour l'instant, il joue avec son pied droit, il joue bien du gauche. Attendons encore un peu.
Je reste avec toi et on va parler maintenant de ton flop sur cette rencontre.
Mon flop du côté lillois, je dirais bah déjà toute l'équipe en deuxième période. Pas été flamboyante.
Alors, ne fais pas une François, reste concentré.
Mais pour moi, le flop vraiment en deuxième mi-temps, c'était Jonathan Bamba. Alors, pas vraiment un gros flop, mais plus un manque voilà, d'assurance, de mauvais choix lors des contre-attaques, alors qu'il aurait pu voilà, être donné plus sur le côté, etc. Des mauvais choix, mais rien d'alarmant.
Jonathan Bamba, là aussi, partagé sur
moi, je suis
flop.
D'accord.
Bamba.
Moi, je trouve que c'est difficile de désigner un flop dans l'équipe de ce week-end, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient en dessous du niveau des autres. Je vais quand même donner un nom, parce que je me suis engagé à le faire. Moi, je voudrais mettre en flop la direction sportive du club, donc Olivier Létang, pour un mercato à Tonnes, où l'équipe s'est affaiblie, parce que arithmétiquement, on a perdu un arrière-droit qu'on n'a pas remplacé. Et les arrières latéraux, c'est quelque chose qui va nous manquer. On a une blessure d'Ismaili qui est assez longue. On a à droite, on a un joueur qui n'est pas arrière-latéral de métier. Et c'est vrai que ça aurait fait du bien. Ça nous oblige à nous priver d'un atout offensif qui est Timothée Uéa pour le faire jouer en piston, finalement. Et ça, on risque de le payer à un moment où on aura peut-être un peu moins de réussite.
Alors, il y en a qui ont bien mieux géré ces dernières semaines et même ces dernières heures, c'était donc les joueurs du LOSC qui ont donc eu la mainmise sur le match, qui ont passé leur temps à faire de la gestion offensive. C'est ce qu'a retenu Jonathan David hier. Écoutez.
On a eu des occasions pour mettre le troisième, même le quatrième but. Et ouais, on continue à travailler sur ça pour être plus efficace. Mais je pense que le troisième match dans la semaine, je pense qu'à un moment, on s'est un peu fatigué. Et c'est ça qui nous a manqué un peu de fraîcheur dans cette situation-là. Mais je pense maintenant qu'on va avoir une semaine pour bien se préparer, je crois que ça va aller.
Alors on a un petit souci technique qui fait que ce n'était pas Jonathan David, mais bien François Stock. Vous avez eu à l'image, rassurez-vous. C'est bien donc Jonathan David
qui ne suis pas ventriloque.
Non, effectivement. On peut peut-être écouter là aussi José Fonte. On va essayer de voir si ça fonctionne. On a parlé donc de... Le fait de vouloir attaquer très vite, hein, c'est ce qu'ont retenu notamment les joueurs. Hier, c'était une consigne de Fonseca. Et on peut écouter, c'était un moment assez savoureux de cette rencontre d'après-match.
Le coach, il a bien parlé avant le match. Il a bien frisé que dans un match comme ça, c'est très important de bien commencer. Et la réalité, c'est que tout le monde a cette envie de bien commencer, de bien se préparer mentalement, physiquement pour le début du match. Et aussi, il nous a dit que si on marque un but les premières 20 minutes, il nous donne un jour en plus de repos. Donc voilà, on a tout fait pour bien démarrer.
Donc 23e minute, c'était pas bon, José, c'était trop tard.
Ouais, je sais, mais à la fin, il a craqué.
Voilà, donc un jour de repos en plus pour les Lillois, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et on a bien compris que François Stock était encore à l'antenne. Je crois que la caméra est tombée donc amoureuse, à moins que ce soit Emmanuel Calafiore qui réalise cette émission, qu'on salue évidemment. Juste un petit mot, donc cette gestion en deuxième partie de rencontre, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette deuxième mi-temps? Tu l'as dit, donc Mats Sels qui a fait une bonne partie, pour le coup, côté strasbourgeois. Mais qu'est-ce qui explique que les Lillois ont eu du mal à mettre ce dernier but?
Ils ont eu du mal parce qu'il y avait finalement pas beaucoup de pression strasbourgeoise, malgré le score de 2-0 en leur défaveur, ce qui fait que les opportunités en contre étaient assez peu présentes, et finalement, ils ont choisi de gérer. J'entendais José Fonte qui disait qu'il fallait aussi gérer la succession des matchs en 3 jours, et donc ça a été fait intelligemment. C'était un match sans pression, et ça s'est terminé sans pression.
Et là, il reste donc Paris et Brest avant, donc là aussi le derby, un point vite fait sur le calendrier. Là, est-ce que pour toi aussi, Baptiste, par exemple, ces matchs, ils vont être importants, primordiaux, comment tu les qualifies ?
On l'a dit, hein, Lens est à 5 points actuellement, donc il va falloir vraiment les stresser un petit peu. Hein, l'objectif de Fonseca, je pense que c'est le top 5, il l'a déclaré, donc en cas voilà, de défaite face à Paris ou face à Montpellier, on perdrait des points face à Lens, et le match face voilà, au derby, c'est complètement un match à 6 points, donc ça va vraiment être important de gagner ces deux matchs pour leur mettre la pression.
On va donc faire le point d'abord sur un mot sur le classement, hein, sur le classement de cette Ligue 1, avec d'abord cette Lens qui descend à la 4e place, hein, on l'a dit, 3 points derrière Marseille, 1 point derrière Monaco, les Sang-et-Or qui ont désormais 5 points d'avance sur le LOSC 5e qui a profité de la défaite de Rennes pour gagner une place au classement. Et puis si on parle du programme, donc ce week-end avec Lille, le premier de retour sur les pelouses, dimanche à 13h, les hommes de Paulo Fonseca qui seront sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG, et les Lensois, eux, accueilleront Nantes à 17h. Et puis donc, on l'a appris ces derniers jours, le derby, ce sera le samedi 4 mars à 17h. Le prend vraiment pas mal, François, mais c'est très drôle de te voir comme ça.
J'essaie de regarder en face.
Non, mais reste concentré, parce qu'il nous reste encore quelques secondes d'émission.
J'essaie de regarder.
Du moins, juste le tour de lancer le résumé sportif du week-end préparé par Nicolas Flon.
Valenciennes retombe dans ses travers à Guingamp. Une semaine après son succès prometteur sur Laval, le club du Nord a logiquement chuté en Bretagne. Mené 2-0, VAI a pourtant cru après la réduction du score de Mathieu Debuchy. Mais l'équipe de Nicolas Rabuel a craqué une troisième fois à la 90e minute. Avec cette défaite 3-1, Valenciennes est désormais 12e de Ligue 2, à 6 points seulement de Nîmes, premier relégable. Mathilde Gros manque le coche au championnat d'Europe de cyclisme sur piste. En Suisse, la nordiste ne décroche aucune médaille en vitesse individuelle. La faute d'abord à une demi-finale perdue face à l'Allemande Pauline Grabosch. La championne du monde 2022 a ensuite été battue lors de la course pour la médaille de bronze. Mathilde Gros manque donc l'occasion de monter sur un 5e podium européen, elle qui n'a toujours pas remporté l'or dans cette compétition. En Betclic Elite, fortune diverse pour les équipes nordistes. Gravelines Dunkerque s'est d'abord offert un premier succès à l'extérieur sur le parquet de Blois. Dans le sillage de Kenny Boynton, 25 points, le BCM a mené toute la rencontre mais s'est fait peur dans le dernier quart-temps. Gravelines Dunkerque l'emporte 92-89 et se rapproche du top 8. Pour le Portel, en revanche, c'est la fin d'une série de 3 victoires consécutives. Le SSM a été battu sur le parquet de Nancy, impuissant face au collectif lorrain et ses 4 joueurs à plus de 10 points. Défaite 79-73, le Portel est 14e du championnat.
C'est déjà la fin de ce COP Nord. On va donc se retrouver la semaine prochaine. On remercie Emmanuel Calafiore à la réalisation. On remercie François Stock, merci Baptiste Cogel, merci Mohamed Zeraoulia et merci Adrien Bonnereau. Merci à la rédaction de RMC Sport. On retrouve l'émission évidemment sur les sites internet BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et puis on n'oublie pas donc en podcast sur Spotify. Très bonne semaine à tous et on se retrouve lundi prochain. Non, lundi prochain ce sera Marie Dufour. Rendez-vous donc pour nous dans 2 semaines. A bientôt, salut.